Session sur la béatitude par le Père Marie-Dominique Philippe, le 20 avril 1996, première conférence.
Malgré l'heure matinale, j'espère que vous êtes bien éveillés. Et demain, il faudra vous lever encore un peu plus tôt, bien ce dimanche. N'oublions pas que le théologien part de la foi et notre théologie chrétienne part du Christ. C'est lui qui pour nous est la voie, la vérité et la vie. Il la voit comme cause exemplaire. Et c'est pour ça qu'il a voulu, pour l'être plus parfaitement, être celui qui chemine, celui qui est viator, c'est-à-dire celui qui est en chemin, comme nous. Et le chemin monte, et pour Jésus il monte tout le temps, pour nous il descend de temps en temps, pas pendant la session, mais... nous de temps en temps, quand nous n'en pouvons plus, nous avons envie de dormir, spirituellement. Et la voix, et la vérité, la vie. La vie, la vérité, la lumière. Je suis la lumière du monde. Et la vie. Parce que la lumière est une lumière de vie. Tout entière, transformée. C'est qu'ils te connaissent. Donc il y a un échange constant. C'est ça qui est merveilleux. Et si vous regardez l'écriture, vous verrez cet échange constant entre lumière et vie, entre vie et amour, et entre amour et intelligence. Ce sont les hommes qui opposent intelligence et amour. Parce que de fait, ils identifient l'intelligence à la raison et à la logique. Ça a été, si j'ose dire, la terrible confusion qui s'est opérée dès le XIVe siècle. Faut pas l'oublier. Occam. Il a identifié métaphysique et logique. Donc ce qu'il y a de plus profond dans l'intelligence capable de voir Dieu est la logique. La logique ne nous rend pas capable de voir Dieu. La raison, elle n'est pas servante de l'amour. Tandis que l'intelligence, la perspicacité de l'intelligence, éclaire, illumine et permet à l'amour d'aller le plus loin possible. Ça purifie l'amour, ça dépouille l'amour de tout ce qu'il y a de trop humain et passionnel. Et ça, c'est l'intelligence qui fait ça. C'est ça qui est merveilleux. Et dans l'écriture, c'est net. Quand on lit l'écriture avec attention, il est vrai, relire toute l'écriture dans cette lumière-là, les rapports entre l'intelligence et l'amour, c'est tellement important aujourd'hui, puisque depuis Occam, on a identifié l'intelligence à la logique. La chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de réveiller l'intelligence. Parce qu'elle s'est endormie. Et elle s'est terriblement endormie, comme une marmotte. Pas commode de réveiller la marmotte. et que maintenant, ce siècle, et même la moitié de ce siècle, c'est curieux. Mais il y a pas longtemps, j'étais encore à Fribourg, donc il y a quand même un petit moment, mais pas longtemps pour moi. C'était il y a 20 ans, c'est pas vieux. Il y a eu table ronde, je ne dis pas où, table ronde en France, avec des théologiens catholiques, luthériens, calvinistes. Et tous ont dit, les voix de saint Thomas, non, on ne peut plus le dire, la seule voix possible, c'est Kant. Qui n'est pas une voix de l'intelligence. C'est l'intelligence pratique. Et si on regarde attentivement, ça ne prouve rien du tout. C'est l'impératif catégorique. Vous voyez le danger. Alors écoutez Nietzsche, qui avec une artillerie violente lutte contre ça, en disant « Kant a fait l'intelligence, une intelligence qui ne vit que de Dieu ». Et qui ne peut vivre que de Dieu. C'est vrai, il n'a pas libéré l'intelligence. Il l'a noué dans l'impératif catégorique. Il faut. Donc, en réalité, c'est la foi. C'est quand même terrible de voir aujourd'hui, et Paul VI le disait, que le danger le plus grand dans l'Église catholique actuellement, c'était le fidéisme, c'est-à-dire la paresse, c'est-à-dire la marmotte qu'on laisse dormir. On laisse dormir l'intelligence, on ne l'éveille pas pour découvrir ce pourquoi elle est faite. La finalité de l'intelligence, c'est de découvrir la vérité. Et mon intelligence n'est vivante que quand elle recherche la vérité. Le Saint-Père a dit, oui, il y a une crise de vérité. On ramène la vérité aujourd'hui à la sincérité. Et on se croit tranquille quand on est sincère. Il y a des brigands qui sont sincères. Il y a des marxistes qui sont sincères. Il y a des bourreaux qui sont sincères. A dit crucifiez-le, ils étaient sincères, je crois. Il vaut mieux qu'un seul meure pour que le peuple demeure. C'est très mystérieux ce que nous vivons aujourd'hui. C'est les conséquences viennent de loin, puisque je vous dis c'est le 14e siècle. Occam. Ça vient de là, ce blocage qu'on a fait entre l'intelligence et la logique. Alors l'intelligence est séparée de l'amour. Et vous avez ces intellectuels froids qui sont des icebergs. Alors quand ils passent, on se met loin pour ne pas être éclaboussé. Alors que la véritable intelligence, elle est de l'amour. Je ne dis pas qu'elle est servante de l'amour, parce que ce ne serait pas juste. L'intelligence a sa noblesse d'intelligence qui cherche la vérité. Elle a, au plus intime d'elle-même, cette dignité de rechercher la vérité. Mais cette recherche de la vérité, c'est pour que l'homme puisse aimer. Il ne faut jamais oublier ça. Si l'intelligence oublie l'homme et ne cherche que la science, elle est à la dérive. Et on a le positivisme, qui est, je crois, l'idéologie la plus radicale, d'une certaine manière. Parce qu'elle n'est pas politique. Elle se retrouve partout. Elle unit Lénine et beaucoup de pays d'Europe. de l'Occident. Vous cherchez les liens secrets. Alors, comprenons que l'homme est fait pour découvrir la vérité et découvrir ce pourquoi Dieu a créé son âme. Le théologien peut dire ça tout de suite. Le philosophe, il doit faire un petit peu attention. Il faut qu'il découvre l'existence de Dieu. Il faut qu'il découvre que l'âme est créée par Dieu. Elle ne peut être créée que par Dieu. Et le théologien peut le dire tout de suite. C'est le privilège du théologien, ça. Il peut dire tout de suite que mon âme est créée par Dieu. Et que l'homme est la seule réalité créée avec les anges. Ils sont créés pour eux-mêmes. Et le pape insiste souvent là-dessus. L'homme est créé pour lui. Dieu, en créant l'homme, met une finalité dans l'homme avec un certain absolu. Il y a une fin dernière pour l'homme. Parce qu'il est esprit. Et sa fin, c'est de découvrir la vérité. Et la vérité, pour le chrétien, c'est le Christ. Et la vérité, pour le chrétien, c'est Dieu. C'est le Père. C'est le Fils. Et c'est l'Esprit Saint. Et je suis créé pour cela. C'est pour ça que tout le traité de la béatitude chez Thomas d'Aquin commence par cette affirmation. L'homme est créé à l'image de Dieu. C'est parce que je suis image de Dieu qu'il y a en moi cette conformité, cette harmonie profonde avec Dieu. Et que cette harmonie profonde avec Dieu est devenu pour le croyant, pour le chrétien, une certitude par le mystère de l'incarnation. Dans le Christ, sa nature humaine est tellement image de Dieu. Elle est tout entière assumée par Dieu directement. Il est dans tout ce qu'il est, dans son être, fils bien-aimé du Père. C'est extraordinaire de voir cela, et c'est la vérité la plus profonde de notre vie chrétienne. Les anges ne connaissent pas ce privilège. Ce sont les petits derniers. Nous sommes les petits derniers. Il n'y a pas d'autres esprits qui ont été créés après nous. Donc on est les benjamins. Or, à travers toute l'écriture, vous savez très bien, il y a ce slogan qui revient tout le temps. Les benjamins qui passent avant les aînés. Le pauvre droit d'aînesse. Hein. Alors s'il y a des aînés de famille ici, ne vous inquiétez pas, hein, parce que c'est autre chose. Mais on est les benjamins. C'est extraordinaire, ça. C'est évidemment pas du tout un adage, une loi sociologique. Non, non, non. Je n'ai jamais rencontré au point de vue sociologique. Les benjamins passent devant les aînés. C'est extraordinaire, ça. Les benjamins, c'est nous. C'est les hommes. Les aînés sont les anges. Ils sont nos aînés, les anges. Ils sont plus intelligents que nous. Ils sont bien plus intelligents que nous. On est toujours battus quand on se met dans un duel intellectuel avec les anges, avec le démon. Quand vous commencez à raisonner avec le démon, vous êtes battus d'avance. Il est plus intelligent que vous. Et le péché n'a pas enlevé son intelligence, mais il lui a donné une intelligence rusée. C'est des gens très intelligents, mais ils sont rusés. Le péché a inversé l'intelligence du démon. comme le péché a inversé l'intelligence humaine par la logique, conséquence du péché, identifier l'intelligence et la logique. Parce que la logique, elle est neutre, ni bonne, ni mauvaise. C'est la neutralité la plus absolue, la logique. Or, l'intelligence n'est pas neutre. Elle ne peut pas l'être neutre. Elle est faite pour la vérité. Et quand on est fait pour la vérité, on sait qu'on doit lutter. Et on est au cœur de la lutte. Parce que c'est vrai. C'est pas drôle, la perversion de l'amour. Mais c'est encore plus terrible, la perversion de l'intelligence. C'est une des choses que j'ai retenues de mes études classiques. C'était un professeur laïque qui était polytechnicien. Et de temps en temps, il arrivait avec la tête complètement rasée. Alors évidemment, on le regardait tous comme ça. Et puis alors, il nous regardait. Regardez-moi bien. Alors, on riait pendant 3 minutes. Et puis après, c'était terminé. Un jour, il nous a dit ça. Mes chers amis, vous verrez, on entre dans quelque chose de terrible, la perversion de l'intelligence. C'était un peu prophète en disant ça. C'était déjà vrai de son temps. C'était en 1929. Oui, c'est vieux. On entre dans la perversion de l'intelligence. C'est terrible, la perversion du cœur. Mais la perversion de l'intelligence, c'est pire, parce qu'on ne sait pas comment la rattraper. Et c'est vrai, par l'amour, on rattrape l'intelligence d'une certaine manière. Mais l'intelligence, elle est fondamentale. Elle la structure de notre personne humaine. Alors on a dit, avec la perversion de l'intelligence, on ne sait plus ce que c'est que la personne humaine. Elle devient boiteuse. Elle boite, elle claudique. Ou elle est paralysée. Je ne sais pas ce qui vaut mieux. Paralysée. Ceci, c'est pour saisir l'importance de ce que dit Thomas d'Aquin. Quand il se pose la question de la nécessité de la foi, dans son traité sur la foi, il y a là une question, un article que je trouve extrêmement important. J'aurais presque mis en tête de tout son traité de la foi, de la nécessité de la foi. Thomas d'Aquin dit, la foi, elle n'est pas nécessaire pour faire de la philosophie. Non. Saint Thomas reconnaît que la philosophie est une sagesse. Il le reconnaît, il le dit. Parce qu'il a découvert en Aristote une philosophie qui est une sagesse. Et pour lui, le philosophe, c'est Aristote. Donc, c'est pas pour la philosophie. C'est pas pour la connaissance de l'homme. Non. La philosophie peut me donner une connaissance de l'homme extrêmement profonde. De la personne humaine. La foi. Pourquoi la foi est-elle nécessaire ? Ah ! Pour comprendre que l'homme, imago Dei, image de Dieu, est fait pour la vision béatifique. Je trouve ça très très beau. Vous voyez, parce qu'alors on voit tout de suite le caractère spécifique. Le caractère propre de la foi. Pourquoi la foi ? Pour la vision béatifique. Là, vous voyez, comme c'est intéressant de voir ce traité de la béatitude, de la vision béatifique, comme le point lumineux. Vous savez bien, quand on était des gosses, et qu'on allait en chemin de fer, et qu'on passait des tunnels, le gosse n'aime pas d'être noir, dans le noir, hein. Et tout d'un coup, on était dans le tunnel, on ne voyait plus rien du tout. Mais dès qu'on voyait un petit voile lumineux, la fin du tunnel, ah, on voit, il y a quelque chose, il y a un petit voile lumineux. Et là, c'est ça. Si vous oubliez que vous êtes fait pour la vision béatifique, vous êtes dans un tunnel qui tourne. Vous êtes dans le labyrinthe. Le labyrinthe de Nietzsche. Vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous tournez à gauche. Au bout d'un certain temps, vous ne savez plus du tout où est la droite, où est la gauche. On vous a fait tourner comme à droite et à gauche, vous ne savez plus. Et c'est vrai, c'est une expérience qu'on peut faire. On met un bandeau sur les yeux, et on fait tournoyer. Puis on dit, là, où est la droite ? C'est un exemple merveilleux pour comprendre où est l'humanité d'aujourd'hui. C'est plus où est la droite ou la gauche. C'est plus. La foi est là pour nous faire comprendre qu'on est fait, non pas pour la droite politique, mais on est fait pour la droite divine. C'est le Fils qui est à la droite du Père. Et c'est notre place à la droite du Père. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous héritons comme des fils bien-aimés. L'héritage est pour nous. L'héritage de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'héritage de Dieu ? C'est sa béatitude. Dieu est la contemplation de la contemplation. Dieu, Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est bienheureux. Sa béatitude, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et on est fait pour cela. C'est merveilleux de savoir que, par la foi, je sais, avec une certitude plus grande que toutes les autres certitudes, que je suis orienté vers vous regardez une carte Michelin dans un pays que vous ne connaissez pas. Vous voyez les points importants. Beau panorama. Alors il y a un beau panorama vers lequel on va. Et on sait qu'on y va avec sûreté, avec certitude. On est fait pour cela. Et tout le reste est secondaire. On est fait pour la béatitude. C'est extraordinaire ça. Ça change toute notre vie, ça. Parce que ça nous donne tout le temps cette petite lumière. Plus besoin de pleurer. Parce qu'on ne pleure pas dans la béatitude. Et on est fait pour cela. La foi est nécessaire pour orienter cela. Alors, je dois grandir dans la foi. Ma foi m'a été donnée gratuitement, mais je suis responsable de la croissance de ma foi. Et donc, je suis responsable de faire que ce petit point lumineux s'approche, s'approche, s'approche et prenne tout. La sainteté, c'est ça. C'est de faire que ce petit point lumineux, qui est très lointain pour beaucoup de croyants, il m'enveloppe complètement. Je fais tout dans ma vie dans la soif de la béatitude. Un jour, je verrai Dieu. Et déjà, dès maintenant, j'ai des prémices. Des prémices qui, quelquefois, sont très douloureuses, mais j'ai des prémices. Je sais que ça m'est déjà donné. J'ai cette certitude de l'amour de Dieu. Certitude pratique. Le théologien sera là pour dire qu'on n'a jamais la certitude absolue d'être en état de grâce. Vous savez bien la réponse de Jeanne d'Arc, intelligente. Parce que l'évêque voulait la mettre en contradiction avec ce que dit l'Église. Es-tu certaine d'être en état de grâce ? Alors Jeanne d'Arc dit, je le désire. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. On a la certitude. droit d'être scrupuleux. Nous avons le droit. On a la certitude pratique. Si vous êtes ici, vous avez la certitude pratique d'être fait pour la béatitude par la foi. Et plus votre foi va grandir, plus cette certitude va grandir. Et plus cette certitude va prendre toute votre vie. C'est ça la contemplation. C'est cette certitude qu'on est fait pour la vision béatifique. Alors comme c'est important, même si on sait très peu de choses sur la vision béatifique, on sait très peu de choses. Thomas d'Aquin l'a étudié avec force, je vous l'ai dit hier. Il a eu l'audace de dire certaines choses qu'on n'avait pas dit avant lui. C'est beau ça. Ça prouve qu'il était un homme de très grande foi. Et c'est vrai. Thomas d'Aquin est un homme de très grande foi. C'est pour ça qu'il est tellement théologien. Parce que pour le théologien, c'est la foi. C'est une foi vivante, hein. Une foi aimante. Alors, essayons de comprendre, autant qu'on le peut, cette parole qui a été prise d'une manière si forte chez les pères de l'Église et chez les théologiens. C'est dans Saint Jean, 1er épître, chapitre 3. Nous savons que s'il vient à se manifester, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons comme il est. C'est prodigieux ça. Hein, c'est la grande parole qui illumine tout dans la foi. Nous le verrons comme il est. Et saint Thomas n'a pas pris ça du tout comme une métaphore. Hein. Il a pris comme une affirmation qui touche l'être. Comme il est. Saint Thomas aime beaucoup l'être. Il aime beaucoup ce qui est en tant qu'il est. Il aime beaucoup la métaphysique. La métaphysique, ça sert à quelque chose. Ça nous aide à faire que ce petit point lumineux qu'est la vision béatifique, on puisse, autant qu'on le peut, enlever toute l'imagination et comprendre que nous sommes faits pour voir Dieu comme il est. C'est prodigieux, ça. Ça m'avait beaucoup frappé. Un de mes amis philosophes, 15 jours avant sa mort, il savait bien qu'il n'en avait plus pour très longtemps, m'a dit, c'est merveilleux, enfin je vais le voir. Enfin je vais le voir. Parce que toute sa philosophie, comme une philosophie réaliste, une philosophie de ce qui est, était faite pour aider à cette chose étonnante. On est fait pour voir Dieu tel qu'il est. Pas avec des intermédiaires. Actuellement, comment je puis voir Dieu? Je sais que je ne vois pas. Personne n'a vu Dieu. Le Fils unique est dans le sein du Père, nous l'a révélé. Donc c'est par la médiation de Jésus. Et c'est une médiation la plus belle qui soit. Il ne peut pas y avoir une médiation plus parfaite que celle du Fils bien-aimé qui est dans le sein du Père. Et donc qui est au plus intime du mystère de Dieu. Et c'est lui qui nous l'a révélé. Et c'est lui qui nous a montré. Tant que je suis sur la terre, je m'approche de Dieu en me servant de ce qu'il y a de plus noble dans la créature. Dans une créature qui existe, ce qu'il y a de plus noble, ce qu'il y a de plus actuel. Qu'est-ce qu'il y a de plus actuel? Qu'est-ce qu'il y a de plus noble? Mon je suis. Parce que l'être comme être, vous ne l'expérimentez pas, hein, tandis que votre pour rien que Dieu s'est révélé, je suis celui qui est. Parce que Dieu, la métaphysique pour Dieu, c'est pas nécessaire. Mais comme Dieu parle à un homme intelligent, Moïse, qui était quand même un homme intelligent, qui avait réalisé parfaitement l'acculturation. C'est le grand exemple de l'acculturation. Élevé à la... chez le pharaon. Heureusement qu'il y avait la mère nourricière, pas seulement pour lui donner le lait maternel, mais maintenir sa foi. C'est l'acculturation la plus extraordinaire, Moïse. Vous voyez, quand vous regardez Abraham et Moïse, vous voyez les deux extrêmes. Abraham, quitte tout. Quand vous regardez Moïse, Dieu le fourre chez le pharaon pour être éduqué comme celui qui devrait régner avec le pharaon, adopté. C'est extraordinaire. Et Dieu à Moïse dit, je suis celui qui est. Et mon je suis, c'est quelque chose qui est comme un appel, les gémissements de l'Esprit Saint. Je crois que le gémissement de l'Esprit Saint le plus profond, c'est le je suis. Quand vous dites je suis, mais en profondeur, c'est un appel vers le je suis. Et vous savez que cet appel, par la foi, me conduit un jour à voir Dieu, à la vision béatifique. Alors qu'est-ce que je peux dire de la vision béatifique? C'est quand même important, puisque c'est ça qui donne la signification à toute ma vie. De chrétien, de croyant, puisque je suis ordonné à ça. Si je ne vois pas que la foi est ordonnée à la vision béatifique, la foi devient vaine. Faut pas l'oublier, ça. Pourquoi des quantités d'hommes aujourd'hui considèrent que la foi c'est vain? Ça ne signifie rien du tout. Parce qu'ils ont oublié que la foi était ordonnée à la vision béatifique. C'est vrai que la foi ne sert à pas grand chose à la science biologique. Pas grand chose. La foi ne sert pas grand-chose à la sociologie, pas grand-chose. À la psychologie, pas grand-chose. Elle devrait, la plupart du temps, pas grand-chose. La foi m'oriente vers la vision béatifique. Sa finalité, c'est ça. Dieu, vous voyez, quel sens je le dis, Dieu peut me demander de croire parce qu'un jour je verrai. Avez-vous le droit de demander à quelqu'un de croire sans qu'un jour il voie? Non. Et c'est vrai ça. Faire patienter indéfiniment quelqu'un. Tu verras, et puis on sait très bien qu'il ne verra jamais. Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est un mensonge. L'intelligence a une noblesse qui ne permet pas qu'on lui demande de croire si un jour on ne voit pas. C'est extraordinaire ça, la noblesse de l'intelligence. C'est la grandeur de l'intelligence. Et Dieu le sait, puisque c'est lui l'auteur de cette lumière qu'est l'intelligence. Alors je comprends très bien que si je supprime ce lien entre la foi et la vision béatifique, la foi devient vaine. Et quand la foi devient vaine, vous savez bien, tout ce qui est vain, on le rejette à la poubelle. Ça ne sert à rien. C'est ce qu'on fait, hein. Le nettoyage de la maison, c'est la poubelle. Le vieux fauteuil du grand-père qui est mort, il est très usé à la poubelle. Alors le vieux fauteuil du grand-père très usé, c'est quelquefois la foi. Il croyait le grand-père, oui, il croyait, il était était merveilleux, il croyait. Il attendait la vision béatifique. Mais les petits-fils n'attendent plus la vision béatifique. Chez beaucoup de Bretons, c'est comme ça. Il n'y a pas que les Bretons, il y a les Flamands aussi. Et puis il y a le Canada. Ah, il y a beaucoup de pays qui sont comme ça. Et la crainte des vrais pasteurs. Je voyais un cardinal, le cardinal de Cebu, Philippines. Il fait peur que dans 10 ans, il n'ait plus la foi. Parce que les sectes sont si fortes, si séduisantes, et n'ont aucun argument contre. Et c'est vrai, ça. Il y a une montée, n'est-ce pas, d'une force étonnante comme séduction, qui fait que la foi, c'est le fauteuil du grand-père. Alors on le renvoie promener. Ça sert à rien. Ça sert plus à rien du tout. C'est curieux, vous voyez. Il y a deux moments où on montre que la foi est vaine. Si, de fait, le Christ n'est pas ressuscité, vaine est ma foi de chrétien. Et si je ne suis pas fait pour la béatitude, vaine est ma foi de chrétien. C'est curieux. Il faut peut-être les mettre en parallèle pour fortifier ma foi. Pour comprendre que ma foi, c'est vrai, elle repose sur l'autorité de Jésus, ma foi de chrétien. Et c'est pour ça qu'on attaque si fortement l'autorité du Christ aujourd'hui. Et elle repose sur le fait que je suis fait pour la vision béatifique, par la grâce de Dieu, par la gratuité d'amour de Dieu. Je suis fait pour cela. Alors n'oubliez pas ça. Si on a le temps, on y reviendra. Parce que c'est intéressant de voir la tactique du démon. La tactique du démon, c'est de faire que notre vie chrétienne nous apparaisse comme vaine, c'est-à-dire vieillotte. C'est ça, ce qui est vain. On est devenu intelligent. Mon grand-père ne l'était pas assez. Alors il croyait encore dans le Père Noël. Moi, j'y crois plus, puisque sinon, ça, c'est de la vieillerie. Ramène-toi des mythes. Alors on rend les choses vaines. Et quand on rend une chose vaine, c'est quelque chose dont on doit se débarrasser. Il est astucieux, le démon, vous savez. Ses attaques sont toujours très intelligentes. La foi est nécessaire pour orienter. Je deviens vraiment comme une flèche tout orientée vers l'Esprit Saint, vers la vision béatifique. Orientée par l'Esprit Saint vers la vision béatifique. Alors, la vision béatifique, elle est dans le prolongement de ma foi, mais de ma foi vivante. De la lumière de gloire. C'est très beau. Parce que que justement, c'est à la fois dans le prolongement de l'amour et en même temps dans le prolongement de la foi. Il y a les deux. L'omen de gloire. Pour voir Dieu tel qu'il est, puisque c'est cette parole, nous le verrons tel qu'il est, il faut qu'il y ait en nous un surcroît d'intelligence. Oui, c'est pas un surcroît de logique. Non. Un surcroît d'intelligence. Mais ce surcroît d'intelligence, il m'est donné à travers la parce que tant que je suis ici sur la terre, c'est par l'amour que je suis le plus proche de Dieu. C'est par l'amour. Et cette fameuse question des rapports entre l'intelligence et l'amour, au Moyen-Âge, ça revenait tout le temps. Pourquoi ? Parce que c'était la vision béatifique. Il fallait comprendre si la vision béatifique était de l'ordre de l'intelligence ou de l'ordre du cœur. Et c'est vrai, je comprends très bien qu'on se pose la question. Pour préciser, on verra Dieu tel qu'il est. Dieu est lumière et amour. Dieu est lumière et amour. Est-ce que Dieu est plus lumière ou plus amour? Ça n'a pas de sens, ça. Il est lumière et amour. Moi, suis-je lumière et amour? À certains moments, je suis lumière quand je cherche la vérité. À d'autres moments, je suis amour quand j'aime. Dans l'oraison du matin, êtes-vous lumière ou amour? Mais je suis les deux. Ça dépend des moments. Et puis, de temps en temps, les deux s'unissent. La lumière et l'amour se sont embrassés à la croix. Il n'en fait plus qu'un. C'est le prof de la sagesse. La sagesse, c'est lumière et amour. Ça, c'est vrai, c'est le prof de la sagesse. Et la sagesse s'achève en Dieu. Et la sagesse ultime, c'est de contempler Dieu. Amoureuse de Dieu. C'est vrai, une contemplation amoureuse de Dieu. Et donc, la vision béatifique, elle va m'être donnée à partir de ce don que Dieu me fera, de cette lumière de gloire. Tellement profonde que mon intelligence deviendra capable de voir Dieu. C'est vraiment l'intelligence qui deviendra capable de voir Dieu grâce à l'amour et par l'amour et dans l'amour. Je ne peux pas voir Dieu sans l'aimer. C'est dans l'aimant que je vois. Et c'est déjà vrai pour moi, dès cette terre, dans le mystère de l'oraison, dans le mystère de la contemplation. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas le voir. Ça va très loin, vous savez ça. Si je n'aime pas Dieu, je ne peux pas le voir. Alors, si je n'aime pas Dieu, mon intelligence est incapable de qui s'évertue autant qu'elle peut. Non, ce sera la surabondance de lumière, la surabondance d'amour qui me permettra de voir Dieu tel qu'il est. Par mon intelligence surnaturalisée, transformée par la lumière de gloire, le dernier fruit de la grâce, et qui est le dernier fruit, la dernière fleur de la grâce, et qui pour pouvoir exister implique une grâce particulière de Dieu. C'est Dieu qui vient à ma rencontre. Et c'est vrai, c'est Dieu qui vient à ma rencontre. Par le désir, je vais vers Dieu. Par la grâce de persévérance finale, je vais vers Dieu. Dans un grand amour. Et Dieu, lumière, vient vers moi. Et du plus intime de moi-même, agrandi, élargi, approfondi, mon intelligence, par son amour, pour qu'elle puisse être entièrement saisie par Dieu. C'est Dieu lui-même ceci.